VOA Afrique, les infos. À Washington, Nathalie Barre.
Au moins 14 morts dans 4 attentats suicides à Maïdougouri hier soir, selon l'armée nigériane. Le point avec Michel Joseph.
Au moins 14, dont les 4 kamikazes et 39 blessés hier soir dans ces derniers attentats. Un porte-parole a déclaré que les attaques ont eu lieu à proximité de la voie ferrée Adjilari à Maïdougouri, la capitale de l'État de Borno. Cette ville est régulièrement la cible d'attaques de Boko Haram. Le 20 septembre, 100 personnes ont péri dans une série d'explosions coordonnées attribuées aux islamistes armés. En août, le président Muhammadu Buhari avait donné au commandant militaire un délai de 3 mois pour mettre fin à l'insurrection. Hier, selon l'armée nigériane, 80 combattants de Boko Haram se sont rendus dans la ville de Bama. Depuis 2009, plus de 10 000 personnes ont été tuées dans la violente campagne pour imposer la loi islamique dans le nord du Nigeria.
Le général Gilbert Diendéré, auteur du coup d'État avorté au Burkina Faso, s'est rendu aux autorités hier. Il avait promis plusieurs fois qu'il se mettrait à la disposition de la justice. Il est sorti jeudi après-midi de la mission du Vatican où il s'était réfugié mardi. Après des négociations, le général a accepté d'être conduit au camp de gendarmerie Paspanga. Il dépendra de la justice militaire. Par ailleurs, rapporte l'AFP, le vice-président de la rébellion malienne du MNLA, Mamadou Djirimaïga, aurait été brièvement interpellé jeudi à l'aéroport de Ouagadougou. Alors qu'il s'apprêtait à quitter le Burkina Faso, il a été entendu pendant plusieurs heures avant d'être libéré vers 23 heures. Selon une source militaire, il a été arrêté sur des allégations qui portent à croire qu'il allait fournir un appui logistique au putsch. Le chef des opérations humanitaires de l'ONU, Stephen O'Brien, a affirmé ce vendredi que des groupes armés centrafricains empêchent les organisations humanitaires d'accéder à plus de 42 000 personnes à Bangui. Les violences qui ont embrasé la capitale centrafricaine ces derniers jours visaient à déstabiliser le pays. En passe d'organiser des élections générales, a déclaré jeudi le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon. La présidente centrafricaine Catherine Zamba-Panza, qui a qualifié ces violences de tentatives de prise de pouvoir par la force, a dû quitter d'urgence New York lundi soir. Ces actes de violence ont fait au moins 36 morts et 30 000 déplacés depuis samedi dernier. Le calme est revenu à Bangui, mais la situation reste précaire. Le gouvernement ivoirien a octroyé un financement de 100 millions de francs CFA à chacun des 10 candidats à l'élection présidentielle du 25 octobre prochain. Cet argent est destiné à la campagne, selon le porte-parole du gouvernement Bruno Nabanié-Koné. Pour le candidat Mamadou Koulibaly, c'est une mesure de mauvaise gouvernance.
Je pense que la formulation même de l'expression « le président Ouattara offre 100 millions aux candidats » montre toute l'ambiguïté et toute la mauvaise gouvernance qu'il y a autour de ce financement. Le président de la République en question n'est rien d'autre que Alassane Ouattara, lui-même candidat. La chose se présente comme si c'est un candidat qui prend la caisse de l'État dans sa main, qui appelle ses adversaires, les autres candidats, et puis leur distribue 100 millions sans leur dire ce qu'il y a dans la caisse. C'est totalement antidémocratique parce que Ouattara étant candidat, depuis le jour où le Conseil constitutionnel a publié la liste des candidats, les 10 dont il fait partie, il n'a plus à gérer l'État de Côte d'Ivoire comme il l'a géré pendant ses 5 ans en tant que président de la République.
Mamadou Koulibaly, candidat à l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire, était joint par Jean-Roger Bion. L'Union européenne a adopté jeudi des sanctions contre 4 Burundais impliqués dans la répression contre les manifestants qui s'opposaient à un troisième mandat du président Pierre Nkurunziza. Il s'agit de Godefroy Bizimana, directeur général adjoint de la police nationale, Gervais Ndira Kobusa, chef de cabinet de l'administration de la police, Mathias Joseph Nyonzima, un agent des services de renseignement, et l'ex-général Léonard Ngenda Koumana. Ils sont impliqués dans des actes de violence, de répression ou d'incitation à la violence, y compris par des actes constituant des atteintes graves aux droits de l'homme, selon le communiqué de l'Union européenne. Estimant que ces sanctions sont purement symboliques, le Conseil national pour le respect de l'accord d'Arusha et la restauration d'un état de droit réitère son appel à l'Union européenne pour multiplier des sanctions plus lourdes visant particulièrement les véritables cerveaux des actes de violence. Quelque 7 500 000 Éthiopiens auront besoin d'aide alimentaire ce mois-ci. Un chiffre en forte augmentation en raison d'une saison des pluies particulièrement faible. Le réseau d'alerte précoce de la famine indique dans son rapport de septembre que les récoltes d'octobre à décembre seront très en deçà de la moyenne, privant les habitants de quantités de nourriture suffisantes. L'UNICEF recense déjà plus de 300 000 enfants souffrant de malnutrition sévère en Éthiopie. Les zones les plus touchées sont les régions Afar, Oromo et Somalie, où certains territoires n'ont pas eu de pluie depuis plus d'un an.
VOA Afrique, une fenêtre sur le monde.
Des témoins de la fusillade ayant fait 9 morts hier dans un collège communautaire de l'Oregon aux États-Unis disent que le tireur visait des chrétiens. Selon des fonctionnaires d'État, le tireur lourdement armé est entré dans les salles de classe en milieu de matinée et a commencé à tirer sur les gens avant d'être abattu par la police. Au moins 2 témoignages disent que le tireur a demandé à ses victimes si elles étaient chrétiennes avant de leur tirer dessus. Le shérif John Hanlin, lors d'une conférence de presse hier soir, a demandé aux journalistes de ne pas donner le nom du tireur avant qu'il ne soit confirmé. Le président américain Barack Obama s'est exprimé quelques heures après la fusillade. Très en colère, il a appelé les Américains à pousser le Congrès à adopter avec bon sens des droits sur les armes. Il a rappelé que la majorité des Américains, y compris les propriétaires d'armes à feu respectueux de la loi, veulent des lois plus sévères sur la possession et l'utilisation des armes à feu. Des précisions sur les frappes en Syrie ont été apportées ce vendredi par les autorités russes. Le point avec Georges Léonard Sagnot.
Le bilan provisoire des raids russes en Syrie est de 12 morts. Il s'agit de 12 djihadistes tués jeudi soir lors d'une frappe qui a visé la province de Raqqa, principal fief du groupe djihadiste État islamique. C'est la première fois depuis le début des frappes russes mercredi que les Russes bombardent Raqqa, dont le chef-lieu éponyme est considéré comme la capitale du groupe État islamique, contrôlant la moitié de la Syrie en guerre depuis plus de 4 ans. Les autorités russes ont indiqué que des bombardiers ont ciblé un poste de commandement camouflé à Kasrat Faraj, au sud-est de la ville de Raqqa, et un camp d'entraînement de l'aile de l'État islamique près de Maadan Jadi, à 70 km plus à l'est. Les frappes de l'aviation russe ont continué aujourd'hui. Les porte-paroles russes ont rapporté que 3 autres provinces ont été touchées, Alep, Idlib et Hama, où des postes de commandement et des camps de stockage d'armes ont été détruits. D'après l'Observatoire syrien des droits de l'homme, le groupe État islamique n'a pas de présence dans les villes touchées dans ces 3 provinces. C'est le front Al-Nosra, la branche syrienne d'Al-Qaïda, qui domine ces régions.
Et sur le choix de ces frappes, la Russie a par ailleurs affirmé lutter contre le groupe État islamique et tous les autres groupes terroristes en Syrie. Les forces gouvernementales yéménites contrôlent le détroit stratégique de Bab al-Mandeb, repris ce vendredi aux rebelles houthis, rapporte l'AFP, citant le général Turki Ahmed. Les forces gouvernementales soutenues par la coalition conduite par l'Arabie Saoudite ont également repris le contrôle de Doubab, proche du détroit. Les rebelles et leurs alliés se sont repliés sur Moka, ville portuaire de la mer Rouge, a précisé le général. Un avion de transport militaire américain C-130 s'est écrasé ce matin à l'aéroport de Jalalabad dans l'est de l'Afghanistan, tuant 11 personnes. Les responsables américains de la défense à l'aérodrome de Bagram ont déclaré que les 6 membres d'équipage sont morts dans l'accident. 5 entrepreneurs civils qui travaillaient pour la mission de formation de l'OTAN ont également péri dans l'accident. Les talibans prétendent avoir abattu l'avion. Le major Tony Wickman de l'US Air Force a rejeté cette déclaration, précisant toutefois qu'il ne pouvait pas dire avec certitude si une attaque ennemie n'avait pas contribué à l'accident. Le C-130 Hercule est un avion cargo quadrimoteur construit par Lockheed Martin. Il y a environ 1 millier de troupes de la coalition dans l'est de l'Afghanistan, dont les forces américaines et polonaises, ainsi que quelques 40 000 troupes afghanes selon l'OTAN. Restez avec nous sur VOA Afrique dans 20 minutes. Le Monde aujourd'hui avec Morgane Guiriec et Chérubin Dorsil. Très bonne soirée.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.